Suivez Priorité Santé avec Sunou Assurance. Notre métier, l'assurance, et Sunou Banque avec vous à chaque étape.
Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Annonce parfois brutale, jargon médical ou langage trop technique, manque de temps, le dialogue peut être difficile entre les patients et les professionnels de santé qui les accompagnent. Alors, comment améliorer cette communication et éviter des incompréhensions, des frustrations, voire même des conflits ? Aujourd'hui, dans Priorité Santé, nous vous proposons un reportage autour de trois initiatives qui visent à replacer les patients au cœur du soin, créer les conditions d'un dialogue plus apaisé, trois expériences développées en France, avec une pièce de théâtre à visée pédagogique, avec des cours de médecine co-animés par des patients aux côtés de professeurs soignants, et enfin d'anciens malades qui deviennent des partenaires du système de soins, notamment dans les services de cancérologie. Repenser le lien patient-soignant, c'est un reportage long format signé Charlie Dupio. Bonjour Charlie Dupio.
Bonjour Caroline.
Alors réfléchir et peut-être en quelque sorte rebâtir le lien entre patient et soignant, une question que vous nous proposez d'aborder, Charlie, en assistant pour commencer à une pièce de théâtre.
Oui, c'est un spectacle qui s'appelle Apnée et qui est inspiré d'une histoire réelle. Il raconte la maladie respiratoire chronique d'un enfant auquel on propose une greffe pulmonaire et le dialogue difficile qui a suivi entre ses parents et l'équipe médicale. Alors cette pièce de théâtre a une visée pédagogique. Elle est jouée devant des étudiants en médecine ou bien dans le domaine paramédical. On en avait déjà parlé dans cette émission d'ailleurs. Je me suis rendue à une représentation en mars dernier au centre hospitalier des Mureaux dans les Yvelines. Sur scène, trois comédiennes, dont deux en blouse blanche. Face à elles, 290 étudiants, des futurs infirmiers, aides-soignants, kinésithérapeutes, ergothérapeutes et psychomotriciens. Installez-vous confortablement, le spectacle commence.
Bonjour docteur. Je ne me souviens pas de tout. Je me souviens qu'elle ne m'a pas demandé si elle me dérangeait. Ni si j'étais disponible. J'ai vu son nom s'afficher sur le téléphone. J'ai hésité un quart de seconde. J'ai dit à Lucas...
C'est le docteur D. C'était convenu qu'elle appelle avant ton départ. Excuse-moi, je réponds.
J'ai décroché.
Ça devait être une formalité. Elle devait me dire ce que je savais déjà sur le scanner, s'assurer de la bonne livraison du concentrateur d'oxygène pour le voyage en avion, et puis bonnes vacances et basta.
Mais elle ne m'a pas dit ça. Elle a dit...
Suite au scanner qui confirme que les lésions sont fixées.
Évidemment, ça fait 15 ans qu'elles sont fixées, c'est pas un scoop.
Mais il n'y a aucune urgence qui justifie de me dire, comme ça, au téléphone, devant Lucas et mon assiette de pâtes, sans me demander si je suis disponible.
Voilà, il est nécessaire d'envisager une transplantation. Lucas est assez grand maintenant.
Sophie Thorezi, vous avez écrit le texte du spectacle Apnée, dont on vient d'entendre un extrait. Alors ce spectacle, il est tiré d'une histoire personnelle, qui est la vôtre, et celle de votre fils. Je vous laisse peut-être nous la raconter.
En effet, Apnée, c'est le résultat en fait, d'une double expérience, à la fois une expérience personnelle de mère, donc d'un enfant vivant depuis de nombreuses années avec un handicap respiratoire sévère, et puis d'autre part, une expérience professionnelle du spectacle vivant, donc en tant que comédienne et aussi en tant que productrice. Donc c'est effectivement cette double expérience qui m'a amenée à écrire le texte de ce qui est devenu au final la pièce Apnée. Puis il y a un autre aspect qui est une entrée moins intime, mais je vais dire un peu plus politique au sens large du terme, qui est en l'occurrence la relation avec l'équipe médicale, etc., à travers un événement qui est une annonce, un coup de téléphone. Je suis en train de manger des pâtes avec mon fils et le médecin m'annonce, par téléphone hein, en l'occurrence, un projet de double greffe pulmonaire pour mon fils. Donc c'est extrêmement violent comme annonce, c'est extrêmement... traumatisant. Et donc, à partir de cette annonce, on rentre dans la relation avec l'équipe, avec l'hôpital et au-delà avec l'institution aussi.
Je ne comprends pas.
En général, on ne greffe pas les enfants, sauf urgence vitale. Mais il a une taille d'adulte maintenant.
Mon cerveau est brusquement noyé.
Je ne peux pas laisser Lucas se dégrader comme ça.
Vous ne pouvez pas laisser Lucas se dégrader comme ça, dites-vous.
Comment, comme ça? Il y a un mois, vous avez commencé la consultation en disant que la situation était stable.
Je ne comprends pas. Quasiment rien n'a changé.
Pourquoi maintenant?
Pourquoi maintenant?
Vous savez, le risque infectieux est tel, on ne sait pas comment Lucas réagirait à une grippe. On n'est pas du tout sûr qu'il s'en sortirait.
Oui, je sais cela. Mais cette situation dure depuis 15 ans. Ça n'est pas nouveau. On y fait face depuis 15 ans.
Et plutôt pas mal, étant donné les circonstances.
Alors pourquoi maintenant?
Quand?
Vous envisagez ça quand?
Il faut prévoir un rendez-vous à la rentrée. Je verrai Lucas seul aussi. Vous rencontrerez l'équipe de transplantation. On engagera le bilan pré-greffe et il sera inscrit sur la liste. Ceci afin d'anticiper sereinement la situation et limiter le stress de l'urgence.
Ah, c'est sûr, on est serein là. C'est très serein cette manière de procéder.
30% de mortalité au bout d'un mois.
C'est la fête!
Une médiane de survie à 5 ans. Ça veut dire qu'au bout de 5 ans, la moitié sont morts et il n'a pas 15 ans.
Ça fait rêver!
Des années de suivi en bonne intelligence pour en arriver là? Pour s'entendre dire les choses de cette manière-là?
Comment il a dit que j'allais... Envisager les choses sereinement.
Malgré son handicap, mon fils vit depuis maintenant... depuis qu'il est rentré au CP sans oxygène, il vit normalement, aussi normalement que possible. En tout cas, ça n'empêche que le risque infectieux demeure extrêmement présent et du coup source de beaucoup d'angoisse, notamment pour moi. Mais en l'occurrence, il ne s'agit pas de minimiser la situation. Mais objectivement, par rapport au risque que représente une opération comme celle qui était envisagée, quelque chose ne semblait pas juste dans l'indication compte tenu du risque. Enfin, voilà. Donc, à partir du moment où on a exprimé ce désaccord avec ce projet, la communication s'est détériorée, on va dire, vraiment altérée. La relation thérapeutique s'est altérée. C'est-à-dire que c'est toujours cette question de temporalité qui me semble être vraiment un enjeu majeur de ce qui fonctionne ou de ce qui dysfonctionne dans la relation thérapeutique. C'est-à-dire que la temporalité du médecin n'est vraiment pas celle du patient souvent. Et de discuter dans le cadre d'une discussion dans laquelle la greffe aurait été évoquée comme une information et comme un projet peut-être un jour ou l'autre, ça n'a rien à voir avec le fait de dire on se revoit à la rentrée, vous rencontrez l'équipe de transplantation, on voit votre gamin seul et puis hop c'est parti. C'est-à-dire que c'est toujours cette question de temporalité et ça me semble très important.
De julie.t@gmail.com à docteur.d@hôpital.fr. Objet, Lucas.
Bonjour docteur, ce mail pour vous dire où nous en sommes, le père de Lucas et moi-même. Nous avons pris un autre avis. Il confirme votre position, à savoir la nécessité d'engager cette transplantation. Nous entendons les arguments.
La diminution récente de la capacité respiratoire de Lucas. Le risque infectieux majoré.
Et après avoir réfléchi longuement, nous restons sur notre position. Nous jugeons qu'il est prématuré aujourd'hui d'engager ce projet et d'en parler à Lucas. À défaut de disposer de statistiques, nous disposons d'un recul de 14 années. Ce n'est pas sans valeur.
Nous sommes pleinement conscients du fait que la situation peut se dégrader et que cela pourrait survenir brutalement.
Ce choix ne vaut bien entendu que tant que la situation est stable.
Nous savons que vous êtes en désaccord avec notre décision.
Vous semble-t-il néanmoins possible de l'accepter ? De continuer à suivre Lucas? Il ne suivrait plus Lucas, donc. Car compte tenu de notre position, je cite, on les empêchait de le soigner correctement. Vous comprenez? Et donc, il nous adresserait à une autre équipe médicale. Ce dialogue de sourds était en fait un rapport de force, totalement inégal et d'une violence insupportable.
Extrait de cette pièce de théâtre Apnée, Charlie Dupiot, ce spectacle qui permet de réfléchir à la communication entre patients et soignant.
Oui, la représentation dure 30 minutes dans la forme courte. Ensuite, une discussion est proposée aux étudiants avec Sophie Thorezi, qui a écrit le spectacle et qu'on a entendu, et avec Catherine Deliot, formatrice spécialisée dans l'éthique médicale. L'idée, c'est de nourrir la réflexion d'élèves qui seront, et qui sont déjà d'ailleurs dans le cadre de stage, au contact des patients.
Ce qu'on peut se demander dès à présent, qui est la première question qu'on se pose, c'est quel est le malaise ? Quel serait le malaise dans cette situation ? Allez, qui se lance ?
Bonjour, Jean-Michel, en troisième année en soins infirmiers à Poissy. Selon ce que j'ai compris de la pièce qui a été jouée, le malaise aurait été en fait, l'information transmise aux patients, mais plutôt la manière dont elle était transmise, en fait, sur la forme et sur le fond. C'est plutôt ça qui a perturbé la patiente, en fait, la dame, du coup, par rapport à son fils.
Mais concernant l'éthique, sera toujours compliqué parce que déjà on a un problème entre les médecins et entre le médical et le paramédical. Il y a une personne âgée qui m'a dit oui, le médecin est venu me dire que j'avais un cancer, il me dit ça comme ça. Et nous on est bloqué, on dit oui c'est la vérité, mais en même temps comment il vous l'a dit, comment ça s'est passé. Et en fait c'est toujours brut parce que après c'est pas méchant, le médecin il va pas venir en disant je lui balance l'info et machin. C'est juste que ils ont pas ce côté où ils se disent comment est-ce que la personne va prendre la chose ? Moi, je suis là pour soigner, je te soigne, tu veux pas, enfin...
Je voudrais pouvoir vous répondre à... Les études médicales aujourd'hui, elles évoluent aussi, et que les nouveaux médecins qui vont sortir quand même, ils vont être formés aussi à ça, à cette sensibilisation, mais voilà, ça tend quand même à s'améliorer.
Moi, je m'appelle Noémie, étudiante en soins infirmiers en troisième année.
Je m'appelle Clara Louise et je suis étudiante en troisième année de kinésithérapie.
Quentin, je suis en soins de kiné aussi en troisième année.
Vous êtes tous étudiants, vous avez assisté à cette pièce de théâtre qui s'appelle Apnée. Qu'est-ce que ça vous a inspiré ?
Aujourd'hui, même dans nos études, on a beaucoup plus de questionnements par rapport à la complexité, la relation qu'on a avec le patient, la relation qu'on peut avoir avec le parent quand on fait de la pédiatrie, etc. Nous, en tant que paramédicaux, on n'a aussi pas la responsabilité de faire ces annonces, mais on a la responsabilité peut-être de prendre le temps avec le patient.
Je pense qu'en fait, aujourd'hui, ce sentiment de plus avoir le temps, il est principalement lié au sous-effectif, tout simplement. C'est qu'on a un nombre de patients, effectivement, tous les patients ont besoin de nous, tous. Ils ont tous besoin de temps avec nous, ils ont tous besoin de parler avec nous. Et malheureusement, on est humains, nous aussi, et parfois, on n'a pas le temps, au sens où, malgré tout, dans une journée, il faut rentrer le planning et il faut voir tout le monde. Et ça, c'est vraiment un manque dans notre métier aujourd'hui. C'est frustrant pour nous de se dire, en fait, là, je voudrais lui accorder 2 heures parce qu'il a besoin de ces 2 heures et je peux pas parce que j'ai un autre patient qui, effectivement, lui aussi, a besoin de moi. Et si je lui prends son heure, il n'aura pas son temps non plus. Et donc, je pense qu'on est principalement sur une problématique d'effectif.
La direction nous dira toujours qu'on n'a pas le temps parce qu'il faut tourner, il faut tourner, il faut tourner. Je l'ai expérimenté. Moi, j'ai toujours le temps. Ça veut dire que même quand j'étais aide-soignante et qu'il fallait faire toutes les toilettes à midi, non. Si le patient veut prendre sa douche à 14 heures, il prendra sa douche à 14 heures. C'est pas grave. Le principal, c'est qu'il est fait. Prendre le temps, le temps.
Humaniser le soin. Je suis totalement d'accord avec le fait que le temps soit hyper important. Et que, en fait, justement, là, on parlait d'humaniser, on parlait d'écouter le patient, etc. Si on n'a pas juste quelques minutes à lui accorder, ou même quelques moments un peu plus longs, en fait, à ce moment-là, on ne peut pas avoir le temps de l'écouter. Et c'est pour ça, par exemple, que personnellement, je vais choisir probablement de travailler en cabinet libéral dans ma profession de kiné. Parce qu'en fait, ce sera moi qui déterminera le temps que j'ai avec mon patient. Et si je veux avoir un temps personnel de 30 minutes avec mon patient ou plus, en fait, c'est à moi de le déterminer. Il n'y a personne qui viendra m'empêcher de faire cette chose-là et d'avoir une qualité de soins qui dépend principalement de l'écoute que j'aurai d'abord à lui apporter avant le reste. Et si on n'a pas le temps de faire ces choses-là, en fait, le soin, c'est pas qu'il sert à rien, mais presque.
prendre le temps en consultation, un engagement pour ses étudiants, qu'ils soient futurs kinésithérapeutes, aides-soignants, psychomotriciens ou infirmiers.
Oui, alors que des questions comme le droit des patients ou la décision médicale partagée sont de plus en plus présentes à l'hôpital. Alors la décision médicale partagée a été initiée par la loi dite Kouchner de 2002. Et selon cette loi, qu'on dit relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, le médecin doit expliquer aux patients les différentes options qui sont possibles au vu des données médicales et de son expérience. Le malade est notamment informé du risque de complications et des alternatives possibles au traitement proposé. On parle de consentement en matière de soins.
Et pour encourager les étudiants en médecine à être peut-être davantage à l'écoute des patients, une université s'est lancée dans une approche unique en France.
Oui, c'est l'université Sorbonne-Paris-Nord, anciennement Paris 13. Depuis 2016, pour les étudiants en médecine générale, c'est-à-dire les internes, à partir de la sixième année, tous les cours sont dispensés par des patients formateurs aux côtés d'enseignants médecins. L'occasion pour les élèves d'échanger pendant un temps dédié autour de leur pratique avec quelqu'un qui n'est donc pas issu du monde médical. Et ils peuvent raconter des moments où ils se sont sentis en difficulté pendant leur stage. Alors j'ai pu assister à un cours avec des étudiants en sixième année, internes donc, car ils font déjà des stages à l'hôpital. Nous voici dans leur salle de classe, un préfabriqué sur le campus de l'université Sorbonne-Paris-Nord à Bobigny, en Seine-Saint-Denis. Alors le cours va démarrer, les élèves arrivent peu à peu et les deux formateurs sont déjà là, une médecin généraliste et un patient.
Ce qui va commencer là, c'est un groupe de réflexion sur la pratique où des jeunes internes en médecine viennent discuter entre eux en petits groupes de la manière dont ça se passe et de cas particuliers qui leur sont présentés et de la manière dont ils ont géré ces cas. Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire différemment? Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire mieux? Où est-ce que, à quel moment ils ont été frustrés? Comment ils auraient pu faire pour l'être moins? Voilà. Et donc la médecin généraliste enseignant et l'enseignant en perspective patient sont là pour animer la discussion et les aider à trouver des solutions.
Donc vous êtes un binôme et vous êtes le patient.
Donc je m'appelle Stéphane Corsiameffre, je suis donc l'enseignant en perspective patient aujourd'hui. Je suis un ancien de la lutte contre le VIH-Sida. Des années glorieuses 90, etc. Ensuite, j'ai beaucoup travaillé dans des associations de patients, maladies rares et puis cancer colorectal.
Qui sont des pathologies qui vous ont concerné?
Non, le VIH oui, mais le cancer colorectal non. Et donc, j'ai une expérience un peu multifacette de l'expérience patient. C'est des petits groupes, c'est une demi-douzaine. Donc ce sont des petits groupes, ils en ont un par mois pendant toute leur scolarité, donc tous les trois ans de l'internat. Et c'est un espace protégé, c'est-à-dire ce qui est dit ici, d'une certaine manière, reste ici. Et ils sont censés connaître toute la matière médicale, d'accord? C'est-à-dire que ce n'est pas ici qu'ils vont apprendre comment traiter une maladie. Ça, c'est considéré comme fait. Donc ces trois années, c'est plus pour apprendre la réalité, hein, la vraie vie, mais c'est aussi pour réfléchir à cette pratique. Et c'est pour ça que nous, dans cette discussion ici, on ne discute pas si le traitement qu'ils ont donné, c'est le bon ou pas le bon, si l'examen était le bon ou pas le bon. Ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on s'assure, c'est qu'ils ont une démarche clinique logique, qu'ils ont exploré tous les aspects du patient, médical, psychologique et social, et qu'ils savent où chercher dans la littérature médicale s'ils ont besoin d'informations supplémentaires. Voilà.
Alors moi je suis Sophia Boulet, je suis médecin généraliste dans le Val-de-Marne, installée depuis 2017 et en parallèle j'enseigne à la faculté Sorbonne-Paris-Nord plusieurs disciplines dans la médecine générale. Mais j'ai eu plusieurs situations de conflit. Aujourd'hui je sais que ces situations de conflit auraient pu certainement être évitables par une bonne communication, je pense. Mais à l'époque je ne me rendais pas compte. Qui veut se lancer en premier ? Sorbonne-Paris-Nord intègre aussi un quota d'internes militaires dans le cursus et il a cette particularité-là. Donc sa présentation va tourner autour d'une situation qu'il a vécue dans un stage qu'il va nous décrire.
Alors donc comme expliqué, je vais vous parler d'une situation qui m'est arrivée donc, dans le cadre militaire, donc à l'antenne médicale dans laquelle je travaille. Donc c'est un patient de 31 ans, donc plutôt jeune, sans antécédent particulier, que moi je reçois pour régulariser une situation de post-opération chirurgie LCA, ligament croisé antérieur. Donc je le vois dans ce cadre-là pour faire le point. Donc, il me rapporte tous ses comptes rendus d'opération. On discute et je lui dis, je lui explique que oui, donc ça a l'air de bien se dérouler. Il a plus de très peu de séquelles. Il a repris sa vie normalement. Le chirurgien est content, mais bah, ça va bloquer à mon niveau, qui va peut-être pas pouvoir reprendre son poste. Il y a un blanc, je vois sur son visage qu'il ne comprend pas pourquoi. Il est dans tous ses états, il me dit que bah, cette décision que je prends là bah, met en jeu sa carrière, et ce qui est vrai. Il me dit même, bah, je l'ai mis entre guillemets, il m'a dit dans les yeux, il me dit que je fous sa carrière en l'air. Donc rien ne fait, j'arrive pas à apaiser la situation pour lui expliquer calmement, parce que c'était un métier qui avec beaucoup de contraintes physiques, il porte beaucoup de poids toute la journée, et que moi je voulais lui éviter une prothèse de genou à 40 ans. Quoi. Moi j'ai pris la décision de lui donner le numéro de la psychologue en lui expliquant qu'elle était disponible et qu'il pouvait avoir un suivi. Et surtout quand j'ai proposé ça, c'est que j'avais conscience moi de mes propres limites bah, dans ce genre de situation, parce qu'on n'est pas formé pour ça. Et c'est vrai qu'il faut avoir un certain sens bah, de la communication, de l'écoute, que je n'ai pas encore forcément. Donc c'était aussi mes propres limites qui m'ont poussé à rediriger vers le psychologue. Et voilà, c'était la fin. Je vous remercie.
Pour cette belle présentation, est-ce que dans un premier temps, toujours dans le souci de vous donner la parole en premier, comment on aurait pu faire pour, puisque là on va mettre les pieds dans le plat, on parle d'annonce, préparer ce qu'on va dire ? C'est pas ta faute, donc pas de « je suis désolée » avec les patients. Je comprends que vous soyez sous le choc. Comment je peux vous aider ?
Là, ça aurait pu être. Je suis désolée de vous avoir lâché ça un peu brutalement.
Je suis désolée de vous avoir lâché ça. Et éventuellement, ça se vaut. Mais t'es pas désolée de la situation, parce que c'est pas de ta faute. Dans les phases d'annonce, dans le processus d'annonce, on parle aussi de demander au patient ce qu'il veut savoir. Et ensuite, tu sais peut-être si c'est le moment ou pas, de dire ce que tu vas dire. Parce que si tu as un patient qui est en face de toi est dans un état quasi dépressif, qui a une attente extraordinaire sur la reprise de son travail, et qui finalement est dans un état émotionnel où c'est une bombe à retardement, lâcher ça, est-ce que c'est le bon moment ? Ou peut-être, aujourd'hui, discuter simplement de son état de santé, de ses projets, qu'est-ce que vous envisagez dans la filière militaire, et ça te permet de créer du lien déjà avec lui. Donc dans le processus d'annonce, il y a plusieurs étapes, et la préparation du patient, elle est capitale. Je dirais que l'étape que l'annonce a été faite un peu brutalement, que la temporalité, le processus d'annonce, il n'a pas été respecté, malgré tes efforts. T'étais pas sur la temporalité du patient, vous étiez sur deux temps différents, des priorités différentes, et du coup ça crée un conflit.
Vous avez eu à faire ce genre d'annonce, enfin pas forcément, juste des annonces.
Moi j'ai déjà eu, c'était un problème de ménisque aussi chez un patient qui s'était blessé et qui avait une lésion complexe. Du coup son ménisque était fissuré complètement, et en fait je lui ai annoncé qu'il fallait sûrement aller voir un chirurgien pour qu'il se fasse opérer. Et je lui ai peut-être annoncé un peu brutalement aussi d'ailleurs, maintenant que j'y repense, mais sur le moment il était... pas très bien, il était assez choqué et il n'a pas très bien pris l'annonce.
Parce que je voudrais pas que vous pensiez qu'on est vraiment dans une situation particulière. C'est intéressant, c'est une annonce. D'habitude, quand on fait une annonce, c'est une maladie grave, etc. Là, c'est pas une annonce de maladie grave, c'est une annonce de conséquence d'un état de santé, enfin, d'un problème qui est, enfin, c'est de la mécanique, de la plomberie, enfin, je ne sais pas comment appeler ça, mais il va vivre, quoi. Enfin, voilà. Si vous annoncez quelque chose donc, qui a des conséquences, il y a forcément une perte de quelque chose. Mais il y a toujours cette notion de perte. Et quand vous annoncez une maladie, une conséquence de maladie, gardez ça à l'esprit. Déjà, le fait de poser des mots sur ce sentiment qui est parfois un peu flou chez les patients, c'est les aider.
Faire face au déni des patients, à leur colère parfois, l'importance de prendre en compte plus généralement leur état émotionnel. Alors comment, quand on est médecin, annoncer un diagnostic difficile, ou là en l'occurrence les conséquences d'un accident invalidant? C'était la première étude de cas abordée pendant ce cours avec des étudiants en sixième année de médecine, dit internes car ils exercent déjà à l'hôpital. Nous sommes à l'université Sorbonne Paris Nord, toujours en votre compagnie Charlie Dupiot.
Et on va passer maintenant au deuxième et dernier cas étudié lors de ce cours. On va parler d'une erreur médicale. Comment réparer cette erreur et retrouver la confiance de son patient? Une autre étudiante, Karen, passe au tableau devant ses camarades.
Donc pour résumer la situation, en fait, j'étais aux urgences en journée et je prends dans la bannette un dossier sur un patient qui se présente, le motif qui est écrit de l'IAO, c'est la dyspnée.
Dyspnée, qu'est-ce que c'est?
Ah, c'est des difficultés respiratoires. Donc au moment de l'interrogatoire, le patient me parle d'asthénie depuis plusieurs jours ainsi que d'une dépendance à l'alcool avec une consommation moyenne journalière d'une bouteille de vin. Donc il ne se plaint pas du motif qui est inscrit sur le dossier, c'est-à-dire la dyspnée. Je l'interroge à ce sujet et il me dit que non, rien à ce niveau-là. Donc dans ce contexte, je décide de lui prescrire une vitaminothérapie et j'appelle également l'infirmier en addictologie afin de réaliser la consultation avec ce patient. Donc j'accompagne l'infirmier addictologue quand il arrive dans le box, puisque le patient a été changé de place entre-temps. Et donc là, au moment d'arriver dans le box, il y a deux patients. Il y a M. Chic et il y a M. Choc. Donc je présente M. Chic à l'infirmier et au moment de la présentation, en fait, c'est M. Choc qui dit que M. Chic, c'est lui. Et donc, en fait, de là, je comprends qu'il y a confusion entre les deux patients et que je ne m'étais pas entretenue avec la bonne personne. Et donc, en fait, du coup, le traitement par vitaminothérapie, il a été donné au mauvais patient. Mais après, les deux noms se ressemblaient vraiment. Mais bon, quand bien même. Donc, au moment de l'erreur médicale, le patient que moi, j'avais interrogé, examiné, lui, n'était pas vraiment en colère, mais l'autre était vraiment en colère. Donc, il venait de patienter longtemps, il n'avait pas de problème d'alcool, on lui avait perfusé des vitamines alors qu'il n'en avait pas besoin. Il s'est vraiment senti trahi. Donc pour corriger mon erreur, c'était moi-même, c'était mon devoir. C'était difficile de réassurer le patient parce qu'au final, il avait eu même pas un tiers des vitamines qui étaient passées. Mais pour lui, c'était une trahison et puis il pensait que ça allait changer son sang. Et médicalement, il pensait que ça allait vraiment être néfaste pour lui. Donc c'était difficile de le réassurer, mais j'ai pu reconnaître cette erreur, l'expliquer et reprendre la prise en charge, même s'il y avait vraiment une rupture totale de confiance.
Finalement, bravo pour le choix de présentation, parce que tu te mets quand même face à tes collègues dans une situation où tu racontes une erreur médicale. Et c'est quand même pas facile en tant que soignant de parler d'une erreur médicale. Bravo pour ton choix.
En fait, j'étais mitigée. Je me suis dit, je vais en parler, mais ça risque un peu d'être mal vu. Mais ça matière à discussion.
Et ce qui était le plus problématique, je trouve, c'était de gérer le monsieur qui avait reçu les vitamines. C'était surtout ça, parce qu'il était très, très en colère. Et on ne savait pas trop comment lui expliquer et comment surtout le calmer. Parce que je me rappelle, on a essayé d'aller à deux et... Il était très énervé.
Vous étiez dans le même stage?
Oui, on est ensemble aux urgences.
Bah, mettez-vous peut-être un peu à sa place. Il est arrivé.
Dans ce cas-là, la question c'est qu'est-ce qu'on dit?
Parce qu'il avait reçu une perfusion. Il n'aurait pas reçu de perfusion, il aurait été plutôt peut-être moins en colère, ou en tout cas juste... C'est juste que quand même... On a pénétré, on a violé son intégrité avec un liquide qui aurait pu être quand même quelque chose de plus embêtant. Hein.
En soi, nous, on dit, bon, c'est que des vitamines, c'est pas grand-chose. Je lui ai pas mis non plus le médicament du siècle. Mais c'est vrai que pour lui, c'était comme si là, on allait changer son groupe sanguin, ses molécules, son corps, tout allait changer, en fait.
Il n'y a plus de confiance. Il doute sur les soins qu'il a reçus. Et ça en revient à, même s'il est en colère, je comprends vraiment que vous soyez en colère. Est-ce que vous voulez que je vous explique pourquoi il s'est passé ce qui s'est passé? Ah non, j'ai pas envie que vous m'expliquiez. Là maintenant, ce que je veux, c'est qu'on me soigne.
Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, pour vous excuser en présentation comme ça?
Il n'y a rien à faire, on peut pas... Comme elle a dit, elle pouvait... ça y est, les vitamines, elles étaient passées, on peut plus... Enfin, on peut pas...
S'excuser, on peut enfin, ça s'appelle de la désescalade, c'est-à-dire on essaie de faire redescendre la personne qui est très en colère à un niveau où on peut dialoguer avec.
Et si pour lui c'est trop difficile de continuer avec toi comme soignant, tu le rediriges vers quelqu'un d'autre.
En tant qu'étudiant en médecine interne, qu'est-ce que ça vous apporte, ces espaces de discussion autour de vos débuts de pratique ?
Ne pas être dans le jugement des patients. Parce que c'est vrai qu'aux urgences, au départ, quand j'ai commencé mon stage, j'avais tendance à dire parfois, mais pourquoi il vient ? Il vient pour rien. J'ai appris que parfois, même rassurer un patient fait partie de la prise en charge, notamment avec l'enseignant patient, qui nous donne son point de vue et qui nous permet de voir les choses peut-être d'un autre angle. On n'interrompt pas le patient, on commence par des questions ouvertes aussi, ça change. Et on le laisse parler, nous expliquer les choses avec ses propres mots, et on essaie aussi de lui expliquer avec des mots plus simples pour lui.
Et ça, vous n'y aurez pas forcément pensé avant ?
On a tendance parfois à utiliser des mots compliqués pour montrer qu'on connaît, pour maîtriser également la situation. Et c'est vrai qu'avec la perspective patient-enseignant, enfin, on se rend compte que parfois ça ne sert à rien, parce que le patient va sortir et ne va rien comprendre.
Enfin, c'est beaucoup de notions subjectives qu'on n'apprend pas dans les livres. Comment réagir, quoi dire, quoi faire en tant que praticien, qu'on n'a jamais appris avant. Et on peut demander du coup à des personnes qui ont de l'expérience, qu'est-ce que vous feriez à notre place ? Moi qui ai soit mal fait, soit pas su quoi faire, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse mieux ou différemment dans la pratique future ?
Moi, je me rappelle d'un GPRIS où l'enseignant patient nous demandait de nous mettre à la même hauteur que le patient.
GPRIS, ce groupe d'échange.
C'est ça. Du coup, bah, grâce à ça, maintenant, quand je suis aux urgences et que je veux voir le patient, je prends une chaise et je m'assois pour être à la même hauteur. Et ça peut changer les choses.
Et maintenant, vous faites ça systématiquement ?
Oui, j'essaie de faire ça quand il y a une chaise.
Se mettre à hauteur littéralement des patients, c'est ce que fait désormais cette étudiante interne en médecine. Comment mieux communiquer avec celles et ceux que l'on soigne quand on est médecin ou futur médecin au sein de l'Université Sorbonne Paris-Nord ? On y réfléchit et on en discute entre étudiants avec un enseignant perspective patient et une enseignante qui, elle, est médecin généraliste, une formation unique en France qui vise à soigner le lien entre médecin et patient, Charlie Dupiau.
Et des patients formateurs, ça n'allait pas forcément de soi dans une faculté de médecine. Olivia Gross peut en témoigner, elle qui a contribué à cette innovation. Elle est maîtresse de conférences, directrice adjointe du laboratoire éducation et promotion de la santé, et elle est également titulaire de la chaire de recherche sur l'engagement des patients au sein de l'Université Sorbonne Paris-Nord. Olivia Gross nous raconte les difficultés auxquelles elle a dû faire face.
Donc on a créé un comité de pilotage dès le départ entre mon laboratoire et le département de médecine générale pour créer ce programme. Donc j'ai fait une phase d'immersion en fait dans la formation pour comprendre de quoi y retourner et ce que je pouvais proposer. Et je dirais peut-être que le moment déclencheur, ça a été quand ils m'ont présenté les objectifs de cette formation. Donc il y avait 6 grandes compétences à développer chez les internes de médecine générale. Ils ont dessiné une marguerite de compétences. Et la compétence centrale, c'est l'approche centrée sur le patient. Et là, j'ai pris mon air bête, que je fais très bien. Et je leur ai dit, mais expliquez-moi, vous enseignez l'approche centrée sur le patient sans patient ? Je pense que c'est le moment qui a achevé de convaincre ou de donner envie, en fait. Il y a eu aussi un épisode quand même assez significatif, hein, puisque vous m'interrogez sur les résistances. Je me rappelle de médecins enseignants qui sont venus me trouver en me disant « Mais nous aussi, on est des patients. Nous aussi, on a des problèmes de santé. Et en gros, on peut se passer des autres patients, puisque nous aussi, on est patients. » Côté un peu omnipotent des médecins. Ou alors, on connaît nos patients, on sait ce dont ils ont besoin. Donc, il a fallu que j'élabore autour de ça et que je leur explique pourquoi un vécu de patient en tant que médecin n'était pas la même chose qu'un vécu de patient qui n'a aucune connaissance médicale, pas de repères dans le milieu médical, qui n'en comprend pas les codes, qui n'est pas capable de voir si son interlocuteur il est compétent ou s'il ne l'est pas, qui n'a aucun repère, quoi. Et puis, en plus, dans ce premier programme, celui qu'on vient d'entendre, sont recrutés des patients que je vais rapidement définir comme des patients experts. Hein. C'est des personnes qui viennent de milieux associatifs, qui sont très engagées dans le système de santé et du coup qui ont développé une analyse un peu critique, qui porte le discours de plein de patients parce qu'ils ont rencontré tous ces patients dans leurs associations. Donc ils ne sont pas là au titre d'une histoire singulière, mais d'une histoire collective, d'une mémoire collective. Ils sont capables de se mettre à la place d'un patient qui a 12 ans, d'un patient qui a 80 ans, parce qu'ils ont rencontré toutes ces différentes personnes. Donc, en fait, quand ils analysent des situations, ils peuvent tout à fait être le porte-parole légitime de tout de cet ensemble de patients. Et ce n'est pas du tout à partir de leur histoire qu'ils s'expriment.
Ce qui est unique dans cette formation ici à la Sorbonne Paris-Nord en médecine générale, c'est que 100% des cours sont dispensés par des patients enseignants.
Donc, au niveau de l'internat, on considère qu'ils arrivent avec leur socle de connaissances médicales suffisantes. Il y aura ces groupes d'analyse de pratiques réflexives qui représentent à peu près 70% de leurs enseignements. Et sur les 30% restants, c'est des enseignements dirigés qui vont être sur les soins palliatifs, sur la communication avec le patient. Mais disons que c'est des sujets plus transversaux où la perspective patient trouve toujours des points d'ancrage.
Qu'apportent ces patients enseignants selon vous ?
Ces patients, ils enseignent la perspective patient. Il y a 20 patients qui enseignent dans l'internat, mais sinon dans tous les cours, c'est un médecin enseignant, un patient enseignant. Ils sont aussi intégrés dans 100% des évaluations des étudiants. Ils corrigent les copies des étudiants, donc pas que dans les cours. Hein. Donc c'est ce point de vue des patients sur les objets traités. Je vais vous donner un exemple simple. Imaginez une situation clinique. Imaginez que vous faites venir un directeur d'un hôpital. Il va regarder la situation selon son angle. C'est là où je vais être caricatural. Sécuritaire, financier. Faites venir le médecin. Il va regarder la situation clinique selon son angle. Bonne pratique médicale. Faites venir un représentant d'usager. Il va regarder la situation. Droit des malades, autonomie du patient. Demandez au patient concerné sur cette situation. Il va dire, est-ce qu'on a répondu à mes besoins ? Et en fait, pour avoir une lecture globale de la réalité, on a besoin de toute cette perspective. Après, il y a plein d'autres formats pédagogiques qui existent. J'ai créé un deuxième programme qui est complètement déployé. Je constitue des petits groupes d'étudiants en interpro qui sont tous en dernière année de leur cursus. Donc, sont concernés des pharmaciens, des dentistes, des médecins, des kinés, des ostéopathes, infirmiers, qui sont à la veille de travailler ensemble mais qui ne se sont jamais rencontrés. Et je les fais se réunir tout seuls, sans enseignant, avec un patient. Et se réunissent 4 fois pendant 2 heures, par groupe. Et là, on a de l'espace pour le témoignage du patient, pour son récit. En général, une situation complexe quand même, qui mêle tous les professionnels qui sont autour de la table, des personnes qui ont envie d'en parler. Il a pu arriver qu'un étudiant me dise « Ah, moi j'ai compris suite à ce programme. Plus jamais je ne dirai le toxico du box 5 parce que c'est stigmatisant. » Et du coup, je lui ai posé la question « Et qu'est-ce que vous feriez avec une personne qui vit avec un diabète ?» Et il m'a répondu « Ah, mais c'est pas pareil. » Alors que, évidemment, que je considère que c'est pareil et qu'on ne dit pas « le diabétique du box 5 ».
Mais qu'est-ce qu'on pourrait dire à la place ?
Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? C'est une bonne question. Déjà, pas le diabétique, mais personne qui vit avec un diabète. Hein, ça, aujourd'hui, c'est les formules vraiment qui... Voilà, c'est ça. C'est d'abord une personne qui vit avec telle ou telle problématique. Mais non pas un diabétique, un autiste, enfin voilà, parce qu'on ne peut pas être réduit à sa pathologie. Voilà, il y a beaucoup de formules qui ont été construites sur les patients, sans les patients, et qu'avec un regard patient, on estime qu'ils seraient, qu'ils sont à reconsidérer.
Des réunions entre professionnels et patients pour échanger autour de leur parcours et de leurs difficultés, avec d'un côté des soignants prêts à se remettre en question, à repenser leurs pratiques, et de l'autre, des patients qui veulent partager leur expérience et s'impliquer dans le système de soins Charlie.
Il existe de plus en plus de patients partenaires ou partenaires en santé, comme on dit, notamment dans le domaine de la cancérologie. C'est une idée soutenue par la Fédération Unicancer. Les patients qui combattent un cancer développent une expertise qui peut ensuite être utile pour les soignants et pour l'ensemble du système de santé. Alors au sein du Centre de lutte contre le cancer Henri Becquerel, qui est un centre privé à but non lucratif à Rouen, en Normandie, ils sont 6 partenaires en santé bénévoles. 6 anciens patients qui veulent maintenant s'engager au sein du centre dans lequel ils ont été soignés. Parmi eux, il y a Lydia Courtin, Gaëlle Pénamen et Emmanuel Hoche. Je les ai rencontrées toutes les 3 pour qu'elles nous racontent leur parcours et leur motivation. C'est Emmanuel Hoche qui commence. Ancienne patiente, elle est devenue salariée et elle coordonne maintenant le Becquerel Lab. C'est le nom de ce groupe de patients partenaires en santé.
Alors moi, j'ai été suivie donc pour un cancer du sein. On me l'a découvert lors d'une mammographie échographique échographie de contrôle en ville. Le diagnostic a été posé immédiatement. En fait, c'est même moi qui ai prononcé le mot de cancer quand on m'a dit « il y a un truc ». Donc, je vous fais une écho, j'ai dit « le truc, c'est un cancer ». On m'a dit « oui ». Et puis, j'ai fait le choix. C'est moi qui ai choisi de me faire suivre au centre de lutte contre le cancer de Rouen, donc le centre Henri Becquerel. Et là, j'ai eu un parcours complet donc, pour un cancer du sein, c'est-à-dire opération, chimiothérapie, rayon, en parallèle pendant un an immunothérapie, puis pendant 5 ans hormonothérapie.
Alors donc moi j'ai eu un cancer du sein avec d'abord une opération pour enlever la tumeur et ils ont enlevé aussi la chaîne des ganglions lymphatiques, ensuite chimio, rayon et hormonothérapie qui dure encore et pour l'instant tout va bien donc on continue comme ça.
Donc moi 2016. En fait, j'étais essoufflée, voilà, donc j'ai consulté mon médecin traitant. Et puis, bah, le diagnostic tombe, nécessité d'être greffée. Donc, greffée de moelle osseuse, greffe de moelle osseuse. Et puis, bah, il y a le jour où je vais à la transfusion, au bout de 3 mois quand même, j'ai eu de la chance. Et on me dit, alors vous êtes contente ? Bah, j'y contente, pourquoi ? Et on me dit, bah, ça y est, on vous a trouvé un donneur. Donc, et après, s'enclenche l'hospitalisation. Donc, je suis rentrée en juillet, mi-juillet. Je suis ressortie fin août. Et donc, du coup, bah, on a une équipe de soins qui est à nos petits soins, qui sont là tous les jours. Dès qu'ils ouvrent la porte, ils savent si vous êtes bien ou si vous n'êtes pas bien. Et quand vous sortez d'ici, bah, en fait, on est tout seul, quoi. En fait, on nous protège au centre Henri Becquerel. Et c'est aussi pour ça que bah on est bénévole aussi pour montrer qu'il faut soutenir l'équipe soignante parce que sans eux bah je serais peut-être plus là.
Qu'est-ce qui vous dans votre parcours de patiente? Qu'est-ce qui a nourri chez vous l'envie de vous engager en tant que patient, de représenter les patients ?
Alors déjà, j'étais très très reconnaissante envers le centre Becquerel et j'avais aussi besoin de les remercier en quelque sorte de m'avoir sauvé la vie. La première nécessité, c'était ça. La deuxième importance, c'était que le projet était intéressant parce que je ne suis pas certaine qu'il y ait beaucoup de centres de soins qui aient envie d'avoir la parole du patient dans leur prise de décision. Et j'ai un peu l'impression aussi de participer à une nouvelle vie et à un nouvel avenir de la prise en charge des malades.
Alors en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, ma maman a été suivie très longtemps dans le centre de lutte contre le cancer où j'ai été aussi suivie. Et je faisais du bénévolat pour le centre. Et puis quand je suis tombée malade, c'était une évidence pour moi d'aller dans le même centre de lutte contre le cancer.
Votre mère avait déjà été prise en charge ici ?
Oui. Ma maman avait été prise en charge ici, elle est décédée depuis. Et quand je suis tombée malade, en fait, c'est le centre qui m'a contactée. Alors pas au moment où j'étais malade, hein, ils ont attendu un petit peu, pour me dire, voilà, on a un projet d'agrandissement de l'établissement. Et dans ce cadre-là, on voudrait intégrer la vie des patients, voir comment les patients aimeraient que l'hôpital soit sur le projet immobilier. Donc l'aménagement des espaces, des salles d'attente, la signalisation dans l'hôpital, etc. etc. Et donc j'ai commencé, puisque j'étais chef d'entreprise, comme consultante pour l'établissement, où j'ai monté un groupe de patients partenaires, des patients bénévoles comme Lydia et Gaëlle.
Mais vous, vous étiez rémunérée.
Et moi, j'étais rémunérée et j'ai fini par intégrer cet établissement en tant que salariée à temps partiel. C'est en train de se faire progressivement, c'est un travail de titan. Hein. Nous, à Rouen, on a commencé en 2018. Il y en a qui ont commencé un petit peu avant, d'autres qui commencent seulement maintenant. C'est vraiment une acculturation très progressive, très lente, mais on voit que ça s'ouvre de plus en plus. Je vais donner peut-être une petite anecdote, mais moi, après une chimio, je vais aux toilettes, ça faisait effervescent dans les toilettes. Je me dis, tiens, ils y vont de bon cœur sur les produits nettoyants à l'hôpital, quoi. Bah, c'est normal, on est dans un hôpital, bon voilà, j'arrive chez moi, rebelote, effervescent, je dis non, là il y a un truc qui n'est pas normal quand même. Et en fait j'en discute à un moment donné avec une autre patiente et qui me dit, ah toi aussi ça fait ça, je croyais que j'avais un problème. Mais en fait c'est la chimio qui s'évacuait et qui faisait visiblement réaction chimique avec les produits d'entretien. Je ne suis pas sûre qu'il y ait un médecin qui sache ça. C'est le genre de choses qu'on va se dire entre patients, mais qu'on ne va pas dire à son médecin, on ne va pas penser à lui poser la question. Le patient parfois il a une inquiétude qu'il n'ose pas exprimer.
Ici, comment ça se passe ? Comment vous vous sentez intégrée en tant que patiente ? Comment vous êtes intégrée ? Vous êtes patiente partenaire ? Qu'est-ce que ça veut dire en fait ? Alors, moi, je participe à des projets un petit peu différents. Par exemple, il y en a un qui est assez étonnant, mais c'est la formation des soignants en sexologie, en oncologie. Parce que avoir un cancer, ça n'enlève pas toute la vie. On garde aussi toutes les joies du quotidien. Et donc, on doit aussi adapter par rapport à des traitements qui ont des conséquences aussi sur le corps et qui apportent des douleurs au moment des rapports et des choses comme ça. Donc, il faut aussi que les soignants soient prêts à un moment donné à aborder ce sujet-là avec leurs malades. Quand on n'est pas malade, on ne se pose pas ces questions-là.
À quelle résistance vous faites face par rapport aux soignants ?
Il y a forcément des résistances pour plusieurs raisons. C'est que les professionnels de santé voient le patient, même s'il y a un côté très humain, mais comme un patient, parce qu'il y a une barrière. Il y a quand même une mentalité qui a été très ancrée avec le professionnel de santé, qui est quand même celui qui va savoir. Et pour moi, c'est le professionnel de santé qui sait quel traitement, qui sait comment faire, qui connaît la maladie. Le patient, pour moi, il va connaître son ressenti, son vécu. Il va développer quelques connaissances ou compétences dans le domaine médical, s'il s'y intéresse beaucoup. Moi, personnellement, j'en ai aucune. Mais donc, voir arriver un patient comme ça, bah oui, on connaît les patients. Oui, mais il va venir voir de l'autre côté comment vous travaillez. Et puis, il va venir vous expliquer des choses, vous dire des choses. Mais il va nous expliquer notre travail. En fait, non. Et ça, c'est une gymnastique qui est très difficile, qui prend beaucoup de temps. Alors, moi, le fond de ma pensée, c'est que je pense sincèrement que le fait de prendre en compte la parole des patients va être un vrai soutien pour les professionnels de santé. On parle souvent du système de santé qui va mal, où les soignants sont fatigués, épuisés. Et je pense qu'aujourd'hui, les patients qui deviennent partenaires vont faire front avec les soignants et les aider. En fait, on les aide à nous aider. Et c'est ça qui, pour moi, est magique dans l'expérience patient.
Des patients aux côtés des soignants et ces patients partenaires, eh bien, ils se répartissent dans différents groupes de travail au sein du Centre de lutte contre le cancer Henri Becquerel à Rouen.
Oui, selon leur disponibilité et leurs appétences, bien sûr, il existe un groupe pour contribuer à la refonte de documents, par exemple des plaquettes d'information à destination des patients. Il y a un groupe aussi dédié à l'amélioration de l'expérience patient en hospitalisation conventionnelle. Un autre encore qui propose de réfléchir à l'accompagnement des aidants, c'est-à-dire des proches des patients. Voilà, donc tous ces groupes de travail mêlent soignants et patients. Et ailleurs en France, dans d'autres centres de lutte contre le cancer du réseau Unicancer, on trouve des groupes de travail sur des sujets comme la prise de décision partagée, on en a parlé, ou bien sur ce qu'on appelle la pair-aidance, l'accompagnement de patients par d'autres patients.
Alors Charlie, est-ce que la plupart de ces patients partenaires sont des bénévoles ?
Oui, même si quelques-uns sont salariés, à temps partiel pour la plupart, en tout cas l'idée d'une professionnalisation fait son chemin. Il existe à Paris une université des patients, où cette fois ce ne sont pas des étudiants en médecine qui sont formés par des patients, mais les élèves sont des patients, qui veulent devenir des patients experts dans les structures de soins, bénévolement ou non. Cette université des patients existe depuis 2010, elle a été lancée par l'universitaire Catherine Tourette Turgis et elle est abritée par l'Université de la Sorbonne au sein de la Pitié-Salpêtrière. Trois diplômes y sont proposés aux patients. Un diplôme universitaire de formation à l'éducation thérapeutique, un diplôme de patient partenaire et référent en rétablissement en cancérologie ou encore un diplôme démocratie en santé. Ce sont des formations qui durent un an.
Prendre en compte l'expertise des patients, l'idée n'est pas vraiment nouvelle, Charlie.
Non, on pense par exemple aux patients experts du sida qui, dès les années 80-90, ont contribué à des avancées thérapeutiques, à des changements en matière de santé publique, et ce, après de longs combats portés par les malades. Et ces dernières années, pour les cancers, pour les maladies chroniques, on parle aussi de plus en plus de patients experts. Voilà, les malades ou anciens malades qui en ont l'envie peuvent jouer un rôle majeur auprès des professionnels de santé en les familiarisant avec le vécu de la maladie, sans bien sûr remettre en cause le savoir médical. Ces patients mettent à disposition leurs connaissances empiriques pour, qui sait, amorcer un nouveau dialogue.
Des pistes pour repenser le lien entre patients et soignants. Merci beaucoup Charlie Dupiot pour ce reportage qui a été réalisé par Didier Bleu. Demain, on se donne rendez-vous à 9h10, temps universel. Et d'ici là, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Notre métier, l'assurance, et Sounou Banque avec vous à chaque étape.